Vendredi 21 décembre 2017, vous écoutez le 107.9 FM, il est 16h et des poussières, c'est Alexis Gagnon au micro pour vous accompagner dans cette fin de journée. Bienvenue dans cette édition de l'émission Le Débrief. Bon solstice d'hiver. Nous sommes passés en effet d'une saison à l'autre ce matin à 8h28 heure du Pacifique. La journée d'ailleurs a été plutôt fraîche. Nous sommes demeurés sous la barre des 5 degrés Celsius toute la journée. Environnement Canada nous prédit quelques averses de pluie ou de neige fondante en soirée. Nous y reviendrons un peu plus en détail en fin d'émission. Beau programme encore aujourd'hui dans cette édition de votre rendez-vous info. C'est d'abord Normand Hébert, bien connu des auditeurs du débrief et de l'ancienne émission matinale qu'animait autrefois Mireille Maheu. Normand, donc, qui vient nous parler du projet de logement social Madrona dans le quartier Vic-Ouest de Victoria, un projet qui a été complété récemment et dont Normand est l'heureux locataire, l'un des heureux locataires. Ce n'est pas tout, nous rencontrons également Jacques Vallée, un pionnier de CILS-FM. Jacques vient nous parler en qualité d'astronome du Big Bang et plus spécifiquement de l'avant Big Bang, de ce qui a précédé le temps zéro, donc une période peut-être impensable, en tout cas inconnue. Alors c'est à écouter, ce sera un petit peu plus tard en seconde partie d'émission. Si vous avez lu la chronique de Jacques Vallée dans le récent Réverbère, vous avez une bonne idée de ce dont il sera question. Voilà une autre livraison bien calorifique en cette fin d'année. Bon débrief à toutes et à tous. Ça commence dans un instant. L'émission Le Débrief se poursuit. Merci d'être à l'écoute, chers auditeurs. Le Débrief est en mode rétrospectif, comme vous le savez. On porte un regard sur l'année 2017 et aujourd'hui, c'est un regard qui va porter sur Vic-Ouest, ce quartier de Victoria qui connaît beaucoup de changements sur le plan urbain. Et j'ai le bonheur de recevoir un habitué du débrief. Si vous avez écouté les saisons 1 et saison 2 de l'émission, vous le connaissez, il s'agit de Normand Hébert. Bonjour Normand.
Bonjour Alexis.
Ravi de te retrouver au micro de CILS FM 107,9. Donc, on parle de Vic-Ouest. Pourquoi? Parce que tu as eu la chance d'être au cœur d'un projet immobilier. On va parler de ce projet en détail, mais auparavant, je veux indiquer que ça concerne Dockside Green. Donc, Dockside Green, c'est un lieu, c'est un espace, une ancienne friche industrielle, un ancien terrain vague qui se situe entre le pont de la rue Johnson et le pont de la rue B.
Oui,
et qui occupe effectivement un grand espace de Victoria. Et si on remonte, dans le temps à 2003, 2000, c'était vacant, c'était vide. Et il y a eu progressivement du développement. Et c'est un développement auquel on a donné le nom Dockside Green. Et vous le devinez en entendant le nom, c'est un développement qui se veut durable, communautaire, du planning urbain intelligent. Et vous avez, si vous passez par là quelquefois, sûrement remarqué ces changements au fil des années. Et les changements se sont poursuivis cette année. Il y en a eu spécifiquement sur Harbour Road. Deux nouvelles constructions de logements sociaux ont été érigées. Et Normand, tu es parmi les chanceux qui ont été retenus pour occuper une des unités. Alors, ça s'appelle Madrona et ça a été construit tout récemment. Tu viens de déménager. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience?
Oui, moi, je viens tout juste de... Comme tu viens de le dire, je viens tout juste d'aménager dans un des appartements qui est situé sur la rue Harbour Road, qui fait face à Point Hope, le chantier maritime Point Hope. Et puis... inconsciemment, j'ai trouvé quelque chose qui correspond tout à fait au mode de vie au mode de vie urbain que je recherche. En partie industriel, historique et en partie communautaire ou résidentiel où les gens y habitent et soit travaillent en ville ou bien donc ils sont simplement soit à la retraite ou ne travaillent pas, quoi.
Oui, alors c'est des gens qui sont issus des classes, on va dire, populaires. Il y avait des critères pour obtenir une unité dans ces constructions-là qui sont sur Harbor Road. Oui. Est-ce qu'on peut les citer rapidement?
Oui, ben le projet Madrona lui-même est composé d'environ 49 unités. C'est deux blocs résidentiels qui compte quelques maisons de ville, des appartements à une chambre à coucher et aussi des studios. Et exemple, j'habite, moi, dans une chambre, ce qu'on appelle le one bedroom, une chambre à coucher. Non, c'est chambre à coucher.
Un one bedroom, d'accord.
Oui, c'est la chambre à coucher fermée et c'est 444 pieds carrés. C'est fait de façon très compacte, très fonctionnelle. Il y a des appareils ménagers, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, toutes des produits lits, des produits à faible consommation énergétique. Et c'est finalement, le projet a été pensé de manière à utiliser le moins d'énergie possible et de créer un environnement communautaire les plus recherchés dans les villes pour une vie urbaine au 21e siècle.
Alors, c'est un projet qui a été livré par l'OBNL Catalyst Housing, qui crée des environnements et des logements sociaux un peu partout dans la province. Madrona est le dernier en date. D'ailleurs, oui. La maire Lisa Helps est passée faire un petit tour au moment de l'inauguration des deux immeubles il y a 3 semaines environ. C'était à la fin novembre. Je pense pas que tu l'aies croisé le jour de ton déménagement.
Non, je l'ai pas croisé, mais j'ai lu récemment qu'elle était emballée par le projet et elle en est très fière parce que ça correspond à... On a une mairesse qui a des valeurs très 21e siècle, qui favorise le transport en commun, transport à pied, la vie en milieu urbain, contre l'étalement urbain. Et ça, projet Madrona, qui n'est pas le seul en Colombie-Britannique, on en retrouve dans différentes villes, je crois, à Vancouver, région de Vancouver. Je ne me souviens pas du coin, mais en tout cas, il y a Vancouver, il y a d'autres villes aussi, il y a Penticton, je crois, et puis une autre ville en Colombie-Britannique. Mais le concept, c'est un concept qui est avant tout fondé sur l'utilisation des terrains et des habitations à des fins dont le profit n'est pas l'unique fin.
Bien vu, bien vu. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu? Est-ce que ça coûte très cher à habiter là? J'imagine que non.
Oh, je peux vous dire mes informations. Je vais vous donner des informations de l'intérieur, des informations précises.
Privilégiées,
oui. Une chambre à coucher, comme j'ai mentionné, fermée, 444 pieds carrés, c'est 875 $ par mois.
Et, c'est raisonnable compte tenu de la situation à Victoria.
C'est en bas du marché parce que c'est facilement à 1 000 $, 1 100 $ pour être ici au centre-ville à 8 minutes à pied du quartier chinois de Victoria et ainsi de suite.
C'est la Galloping Goose qui passe devant chez toi.
Dans la rue, oui, qui est sur Harbour Road et qui est connectée au Galloping Goose à
Dockside Green.
Pas Dockside Green. L'autre piste cyclable, c'est...
celle de la passerelle, là? La Trestle?
Il y en a une, c'est le Sentier canadien.
Oui.
Et il y a celle qui va vers Sydney. Donc, il y a le réseau, un accès immédiat au réseau cyclable. Il suffit simplement de sortir son vélo. Et en parlant de vélo, on a des abris fermés sécurisée pour les cyclistes dans les à l'intérieur du projet, ce qui facilite énormément l'usage du vélo en tout temps.
Donc, Harbor Road, en face des chantiers navals de Point Hope, de très jolis bâtiments rectangulaires, tout neuf, tout joli, tout beau, que j'ai eu la chance de visiter moi aussi. Un paysagement de très bon goût environnant ces deux bâtiments-là, et ça va s'améliorer puisque ça n'est que le début. Est-ce que tu peux nous dire les autres tarifs pour les unités qui sont un petit peu plus grandes que la tienne?
Le studio, c'est à 7,40, autour de 7,40.
Un loyer 7,50. À 7,40,
oui. Ça, c'est des studios qui sont
une pièce.
Les plus bas, oui. C'est construit, l'immeuble est sur 3 étages et c'est construit sur une pente. Donc, on est au rez-de-chaussée quand on entre dans son studio. Quand on est au deuxième étage, on est également au rez-de-chaussée parce qu'on est sur une surface plus élevée. Et il n'y a seulement que les appartements du troisième étage qui sont eux qui ont un escalier pour y avoir accès.
Très bien.
Et les chambres à coucher, c'est ça, on parlait des prix. La deux chambres à coucher, je crois, c'est 1100. Et trois et quatre chambres à coucher, c'est autour de 1400, je pense. C'est des maisons de ville, en fait.
Ouais.
Une entrée, il y a eux... ces quelques unités-là, il y en a
une entrée privée.
Ils ont l'entrée à deux étages, mais une habitation à deux étages, et ils ont aussi un espace de stationnement. C'est réservé aux familles.
Et ça reste en deçà des prix du marché, encore là, donc très abordable. Et je vois que ça crée par ailleurs une certaine diversité des locataires, donc il n'y a pas seulement des personnes seules, il y a des petites familles, il y a des personnes un peu plus âgées. Tu me disais que tu avais croisé une des jeunes locataires qui travaille à côté dans le café Fantastico, un café qui est très prisé des connaisseurs de café ici à Victoria. Le café Fantastico est sur Harbor Road à un jet de pierre de ce nouvel immeuble. Et donc elle, cette jeune femme...
elle travaille, je crois, à Folépi.
Oui. Ah oui, c'est ça, Folépi qui est contigu juste à côté de Fantastico. Alors, elle était à la deux pas de son travail.
Oui.
Et il y a une belle diversité de locataires dans ce nouveau développement. C'est vraiment très joli et encourageant sur le plan communautaire pour VicWest. Mais dis-moi, Normand, comment as-tu entendu parler de la construction de ce projet Madrona et comment as-tu pu satisfaire à tous les critères?
Moi, j'ai entendu parler du projet par l'intermédiaire de ma fille. Elle habite dans VicWest, elle habite sur Wilson, et c'est eux qui avaient, elle et son copain, qui avaient eu vent de ces deux immeubles qui allaient être livré et être accessible, être mis en location. Et ils ont appliqué tous les deux et ils n'ont pas obtenu un appartement.
Il fallait soumettre sa candidature.
Il fallait soumettre sa candidature avec l'aide de référence de son propriétaire précédent. Pardon. Et aussi les revenus parce que il y a des critères au niveau des revenus. Il faut être, selon la grandeur des unités qu'on occupe, c'est à peu près entre 30 000, c'est 25-30 000 pour les studios. Il y a des critères au niveau revenu, mais c'est de cette manière-là. Moi, j'ai appliqué en juin, à la mi-juin. Et au début, on nous faisait miroiter qu'on allait pouvoir déménager à partir du 1er septembre, mais ça n'a pas été le cas.
Heureusement, tu avais un propriétaire qui était assez ouvert et
souple.
Oui,
qui était très, très accommodant. Et il dit, pas de problème, tu restes, quand tu es prêt à déménager, on fera nos comptes à la journée ou au mois, et tu pourras à ce moment-là... quitter le logement.
Un francophone, d'ailleurs, un francophone d'origine qu'on salue chaleureusement puisqu'il t'a aidé à déménager.
Oui,
on peut dire quelques mots.
un franco-franco, là.
Oui, c'est
ça.
Un franco-colombien.
Colombien, pardon.
Oui.
C'est le mot que je cherchais.
Et tu étais auparavant à Sydney. Tu te sentais un peu excentré, éloigné du centre culturel de Victoria. Dirais-tu que tu as connu une amélioration en venant t'établir ici dans Vic West?
Oui, une amélioration substantielle. Pour expliquer, j'habitais dans un concept de logement, d'habitation totalement différent. C'était 12 unités sur 3 étages, un vieil immeuble complètement non isolé. Et où tu entendais dans les corridors les gens qui prenaient leur douche ou bien non, qui faisaient partir la hotte de cuisine, ainsi de suite.
Ouais.
C'était relativement calme, mais c'est une conception de la vie urbaine qui était totalement différente.
Et le propriétaire était sympa, mais l'immeuble était laissé à désirer et puis était très, très loin de Victoria, enfin, par rapport à tes intérêts.
Oui, une autre chose, c'est que actuellement, il y a un boom immobilier à Sydney et il y a une pression très forte actuellement sur le propriétaire où j'habitais, qui était propriétaire de deux immeubles côte à côte, parce que c'est un... Il évolue dans un marché strictement, je dirais, capitaliste, dans le sens le profit est l'ultime but de l'habitation ou de la construction immobilière. Contrairement où j'habite, le profit n'est aucunement le but ultime dans le domaine immobilier. C'est avant tout pour créer un environnement de vie communautaire et un réinvestissement sans cesse dans les unités d'habitation, ce qui est tout à fait à l'opposé de celui qui finalement encaisse, met ça dans...
Oui.
Ça lui revient, ou bien donc...
À but lucratif, hyper lucratif.
Oui, réinvestit ça autrement pour obtenir des gains ailleurs, et comme où j'habite maintenant, le concept est tout à fait différent.
Voilà.
On ne spécule pas sur... les toits des gens, et l'habitation n'est pas un bien spéculatif.
Ouais.
C'est pour ça qu'on a une crise majeure au Canada, dans beaucoup de villes, c'est que l'habitation est devenue un produit spéculatif. Donc, au plus fort, et sort gagnant.
Oui, effectivement, la crise du logement est l'un des dossiers chauds. Ici, en Colombie-Britannique,
oui.
À Vancouver, ça atteint des proportions
aussi,
énormes. Ici, à Victoria, on est très concernés également. Si vous venez de vous joindre à nous, chers auditeurs, je suis en compagnie de Normand Hébert. Nous parlons de ce nouveau projet de logement social, de logement abordable, qui a été construit dans Vic West, à l'intérieur du périmètre Dockside Green. Ça s'appelle Madrona. Et ma prochaine question, Normand, est-ce qu'il reste des places? Est-ce qu'il est trop tard pour poser sa candidature?
Ah, ça, c'est une bonne question. Actuellement, toutes les unités semblent
prises,
mais c'est important. Si vous êtes intéressé, allez en ligne, faites Madrona Project ou Dockside Green, et vous avez accès à une inscription en ligne. S'ils en prennent encore, mais récemment, ils en prenaient encore. Il y avait encore une possibilité d'inscrire, faire une demande.
Tu crois que certaines des 43 unités...
49 au total.
49, pardon, seraient encore disponibles?
Il y a des studios qui semblent être... inhabité en dessous de moi.
Actuellement. OK.
Oui.
Bon, alors, il n'est sans doute pas trop tard.
Non, il n'est pas trop tard, certainement.
Peut-être y a-t-il une petite liste d'attente. Ça vaut tout de même la peine d'aller sur le site et
tout à fait.
Peut-être de leur écrire un petit courriel ou de remplir leur formulaire en ligne. Peux-tu me décrire les premières journées que tu as passées dans ta nouvelle unité? Comment te sentais-tu? Et est-ce que tu trouvais qu'elle était bien dessinée, bien conçue?
Oui, tout le design intérieur est fait pour utiliser l'espace à son maximum. Et moi, où j'habitais auparavant, j'avais accès à la laveuse et sécheuse, et c'était au sous-sol de l'immeuble. C'était commun aux occupants. Et là où j'habite, c'est des appareils ultra modernes, ultra, pas nécessairement performants, mais ultra écologiques et à faible consommation, à haut rendement. Et donc, dans l'appartement même, dans un isolé, on a l'appareil sécheuse-laveuse et aussi il y a un lave-vaisselle. C'est des appareils qui sont très peu bruyants aussi.
Oui.
Ils ont mis, à l'exception de la hotte de cuisine, qui est plus bruyante, mais dans la salle de bain, le ventilateur, c'est tout juste, on se demande s'il a démarré ou pas. Très, très silencieux. Et aussi, je suis au niveau du sol, ce qui est très...
D'un côté, tu es du niveau du sol, parce que, comme tu le disais, c'est en pente. Donc, d'un côté, le côté arrière, en fait, ça dépend du point de vue.
Oui.
Là où tu entres, c'est niveau sol. Mais de l'autre côté, face à Pointe-Rope, au chantier naval, tu es surélevé.
Exactement.
Intéressant.
Je vois le pont de la chambre à coucher, je vois le pont B, mais non le nouveau pont qui est à cause d'un immeuble qui est dans l'angle.
Mais tu as quand même une des bonnes vues qu'on peut avoir dans cette construction-là. Tu as un des meilleurs endroits pour... ta vue n'est pas obstruée puisqu'il y a un autre immeuble qui va se construire bientôt. Donc, tu as été chanceux
sur ce plan-là. Oui, j'ai une des unités les plus ensoleillées. En général, elles sont ensoleillées, dépendamment toujours de l'année. Mais pour revenir à ce que tu disais, le lieu d'habitation... Même mon entrée principale entre les immeubles, parce qu'il y a des immeubles qui sont situés sur la rue Taï.
Oui.
Et il y a un aménagement qui fait partie, étant partie du projet de Tsai-Green. Il y a des bassins d'eau, il y a des cascades d'eau, et c'est un aménagement paysager. De très haut voltige.
Oui, alors oui, effectivement.
C'est remarquable, c'est très bien conçu.
Oui.
Et c'est très calme, c'est un environnement paisible. C'est très, très fait pour une vie urbaine de qualité.
Et le développement dans Dockside Dream, Dockside Green, se poursuit. Il y a encore une portion de cet ancien terrain vague qui est libre. Et on va sans doute voir au cours des prochaines années de nouvelles tours se construire. Si vous voulez vous pencher sur ce projet de logement social, de logement abordable qui a été inauguré récemment et que mon invité aujourd'hui, Normand Hébert, occupe à présent, ça s'appelle Madrona, on le répète, Madrona. Donc vous pouvez trouver ça sur Internet à l'adresse rentmadrona.ca et vous trouverez toutes les informations. Et c'est sur cette page que vous aurez les contacts si vous souhaitez poser votre candidature pour un logement. Normand, je tiens à te remercier. J'espère que tu feras une pendaison de crémaillère qui réunira de nombreux francophones de la communauté élargie de CILS-FM et de la société francophone. Peut-être que ça va déborder un petit peu sur ton jardin.
Ça va être un flot de francophonie entre les collecteurs brodeurs puis la société francophone.
Alors, on va attendre les beaux jours peut-être. À Victoria, ça revient vite. Dès la fin février, on a déjà de très belles journées, très printanières. Normand, je te remercie. Je suis ravi de t'avoir retrouvé pour cette série d'émissions.
Ça m'a fait plaisir. C'était agréable de parler de la vie urbaine à Victoria.
Pareillement. Et on se retrouvera dans le débrief ou dans une émission qui sera sous une nouvelle formule. Toujours à l'antenne de CILS FM 107,9. À très bientôt. Jacques Vallée est avec nous aujourd'hui dans cette édition du Débrief. Le Débrief, je vous le rappelle, est en mode revue de l'année. Jacques Vallée, que vous connaissez certainement dans la communauté francophone de Victoria, c'est un pionnier. Il a contribué au premier plan à la fondation de CILS-FM qui fête cette année ses 10 ans. C'est un astronome, un astrophysicien. Il est très connu aussi au sein de la communauté élargie. On le voit souvent du côté des rendez-vous de la Société francophone de Victoria. Il est membre et très impliqué, très engagé dans l'Association historique de Victoria. Un livre se publie sur l'histoire francophone de Victoria, tome 2 justement, on le mentionne en parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle d'étoiles, de cosmos et de Big Bang. Bonjour Jacques Vallée.
Bonjour Alexis Gagnon.
Merci d'être avec nous à l'antenne de CILS-FM. Donc c'est effectivement d'astronomie qu'on parle aujourd'hui. On va remonter à la source originelle, au temps zéro, c'est-à-dire au Big Bang.
Oui, en fait, je voudrais dire que historiquement, quand j'ai entré, quand je suis devenu astronome au tout début, quand j'étais très, 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 très jeune, là, il y avait deux théories en compétition. Il y avait le Big Bang et il y avait la formation continue. Alors, dans la formation continue, ce sont des gens comme Jeffrey Burbidge aux États-Unis qui disaient que autour de nous, il y a toujours de nouvelles sources d'énergie qui sortent du vide. Et on a au fil des temps, les astronomes ont montré que c'était pas vrai parce que ça voudrait dire que quand on regarde une galaxie au loin, elle aurait le même spectre qu'une galaxie proche. En fait, on a trouvé que toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous et plus ils sont loin, plus ils vont vite. Alors ça, c'est pas expliqué par la théorie de la formation continue. On l'a donc jeté à côté, cette théorie-là, et on a pris la théorie du Big Bang.
Est-ce qu'il y a un avant Big Bang? Et là, je réfère un peu à la chronique que vous avez signée dans la publication Le Réverbère, qui est la publication francophone périodique de la Société francophone de Victoria. Dans cette chronique, donc la toute dernière, vous avez un peu posé la question de l'avant Big Bang, avec des guillemets et des points d'interrogation, bien sûr, puisque c'est hautement théorique.
Je dois dire que moi, je suis un astronome instrumental qui utilise des télescopes, donc un astronome observationnel. Donc, moi, je ne m'assois pas pour écrire des tas d'équations puis publier ça dans une théorie. Là. Je trouve qu'il y a peut-être trop de théoriciens en astronomie. Et il ne veut pas tout être correct en même temps. Là. Il y en a un qui va être correct, mais on ne sait pas lequel. Il faut faire des observations au télescope. Donc, on marche en symbiose, les astronomes au télescope et les théoriciens qui ébauchent dans leur tête des romans de ce que l'univers devrait être.
Et quand on n'a pas beaucoup de données observationnelles, et c'est le cas pour l'avant Big Bang, certainement, on peut partir sur toutes sortes de pistes et d'hypothèses, j'imagine.
Oui. Alors, donc, pour l'homme de la rue, là, faire un choix dans tout ça, là, c'est comme lui demander trop. OK. Donc, on va commencer avec le fait qu'on a des observations au télescope qui montrent qu'il y a eu un Big Bang. J'en ai mentionné que les galaxies les plus loin ont l'arrêt d'hydrogène qui est décalé vers le rouge. Plus la galaxie est loin, plus l'arrêt d'hydrogène est décalé. OK?
Donc, ça nous permet de déterminer leur âge.
Jusqu'à un certain point. En fait, c'est plutôt la distance.
La distance.
Mais, maintenant, le Big Bang a laissé une trace qui s'appelle le bruit de fond cosmologique, qu'on dit en anglais « 3-degree Kelvin cosmological background ». Et ça, on l'aperçoit partout avec nos télescopes radio, pas avec des télescopes optiques. Il a aussi laissé la nucléosynthèse chimique. Alors, ça dit exactement qu'il y a plus d'hydrogène que d'hélium, il y a plus d'hélium que de carbone, il y a plus de carbone que d'oxygène, ils s'en vont comme ça jusqu'au fer, dans la bonne proportion l'un de l'autre. Donc, ces deux éléments-là, le bruit de fond et le nombre relatif de chaque atome dans l'univers, bien, tout ça, c'est expliqué par le Big Bang. Maintenant, la deuxième affaire, c'est qu'il y a eu, par après, un autre petit Big Bang qu'on appelle l'inflation. Moi, je l'appellerais un mini-bang. Et celui-là a permis de homogénéiser l'univers et d'expliquer la courbure zéro de l'univers. Donc, on a des preuves, la courbure zéro, on a des preuves, l'homogénéité, et ça a été fait par l'inflation. Donc, ça se complique. Puis là, on trouve d'autres petits problèmes. Les astronomes avec des télescopes, ils trouvent toujours des petits problèmes avec les théories trop simples.
Oui, des petites objections qu'on peut formuler ici et là.
Par exemple, on s'aperçoit que l'univers près de nous grandit trop vite par rapport à l'univers lointain. Et donc, on définit le concept d'énergie noire, puis on voudrait que les théoriciens nous expliquent c'est quoi. Et on a aussi le fait que le Soleil qui tourne autour du centre de la galaxie sur une orbite circulaire, bien, il devrait tourner à une vitesse plus lente. Il tourne trop vite, alors donc il y a de la masse noire. On voudrait que les théoriciens nous expliquent c'est quoi la masse noire.
La matière sombre ou la masse, comment on l'appelle?
Ben, en anglais on dit dark matter, mais en français on peut dire la matière sombre. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser le mot noir. C'est raciste.
Ok, d'accord. Ça peut confondre aussi sur la couleur de la matière en tant que telle. Elle n'est pas colorée.
On ne sait pas qu'est-ce que c'est, donc on ne sait pas quelle couleur elle a.
Voilà.
Elle pourrait très bien être rouge.
Mais dans cette chronique que vous avez signée dans le dernier numéro du Réverbère, vous évoquez les dernières tentatives dans le monde de la science et dans le monde de l'astronomie d'aller vraiment dans l'avant Big Bang, avant le temps zéro. Est-ce que c'est concevable, ça?
Oui, mais je devrais dire qu'on peut faire deux choses. Soit qu'on a une théorie qui est à peu près correcte, qu'on va essayer de la tweaker, de la changer légèrement pour qu'elle marche, ou alors on jette tout en terre, puis on recommence avec une autre théorie qui a été proposée, par exemple, par M. Padmanabhan.
Oui, un Indien. Écrivez-vous dans votre chronique.
Oui. Et ce monsieur, donc, il y a une bataille entre soit tweaker les théories qu'on a, qui semblent coller, ou commencer à zéro. Alors, lui, il a décidé que j'aimerais ça commencer à zéro. Il a décidé ça.
Oui.
Alors, donc, lui, il dit qu'avant l'univers actuel, avant le Big Bang, il y avait un autre univers. Mm. Alors, mais il dit que c'était un univers concentré. Donc, c'était une boule, une petite boule, et elle était quantique et cosmologique en même temps. Donc, au lieu d'utiliser les équations d'Einstein pour la gravité, il utilise les équations quantiques.
Est-ce qu'il rejette la théorie de la relativité d'Einstein?
Non, du tout, du tout, du tout. Tout ce qu'il veut, c'est créer une chambre passée, la chambre actuelle où on vit. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, une température, par exemple, qui aurait augmenté, il ne sait pas trop comment, mais supposons qu'il y a une boule de glace, puis tu montes la température, bien, la boule va devenir liquide. Alors, lui, il dit la boule liquide, c'est le Big Bang et puis la théorie d'Einstein. Mais avant ça, d'après lui, c'était une boule quantique et il essaie de trouver les équations de cette boule qui fait que quand on va monter en température, ça va faire le Big Bang puis l'inflation puis tout ce qu'on connaît de nos jours.
D'accord.
Mais je dois dire qu'il n'y a aucune observation de ça, là, de ce qu'il dit là. Zéro observation. Donc, il peut arriver quelqu'un d'autre, non plus des Indes, mais mettons du Sénégal, qui va arriver avec une théorie en compétition.
Oui.
Et je pourrais pas, ni d'un bord ni de l'autre, aller vérifier, parce que nous, avec nos télescopes, on voit jusqu'à une certaine distance.
Oui.
Plus on a un meilleur télescope, on va aller plus loin.
Est-ce que les télescopes peuvent aller jusqu'à l'origine en regardant très, très loin dans la distance?
Moi, je dirais que oui, mais j'ai pas de preuve parce qu'il faut que tout le monde trouve des télescopes de plus en plus performants. Et ça peut prendre 100 ans ou 200 ans avant qu'on ait un télescope tellement loin qu'on va arriver et on va voir le bout de l'univers. Je sais pas si ça va être un mur de briques ou rien, là.
Oui. Alors, les scientifiques répondent souvent à l'homme de la rue, comme vous l'appelez, au tout venant, lorsqu'ils demandent, souvent les gens, les profanes vont dire, mais il y a sûrement une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, il y a sûrement un avant Big Bang, et les scientifiques leur disent, ben non, il n'y a pas plus vite que la vitesse de la lumière, et il n'y a pas d'avant Big Bang.
Non, c'est pas ça que je te dis, là. Je te dis que je peux pas te répondre à ta question, mais toutes mes expériences en laboratoire me disent qu'il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière, mais peut-être que ça existe quelque part et qu'un extraterrestre va venir nous montrer comment faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas parce que je ne l'ai pas trouvé.
Voilà. Et l'analogie qu'on emploie souvent pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'avant Big Bang, c'est comme si quelqu'un voulait aller au nord du pôle Nord. Alors, lorsqu'on est au pôle Nord, on ne peut pas aller au nord du pôle Nord. Et c'est un peu l'analogie que j'ai entendue parfois en faisant mes petites recherches de néophytes très, très... très profane. C'était une analogie qu'on employait pour dire il n'y a pas d'avant Big Bang.
Ça, c'est un modèle que la Terre est sphérique et que tu ne peux pas aller plus proche, plus loin que le nord. Oui. Tu vas redescendre.
Voilà.
Maintenant, c'est une analogie et ça, on ne sait pas si l'annulaire est la forme d'une boule sphérique, mais c'est possible.
Voilà. Mais là, c'est une analogie qui s'applique au temps cette fois et non plus juste à l'espace. Mais avant le temps zéro, jusqu'à présent, on nous dit qu'il n'y a rien. Mais cet Indien et d'autres, quelques autres, essaient d'explorer l'avant.
Oui. Mais sûrement que si jamais, avec nos télescopes, on va aller de plus en plus loin et peut-être qu'on va arriver au moment du Big Bang. Et peut-être qu'on va s'apercevoir que c'était pas une singularité, un point, mais une boule. À ce moment-là, on va dire, ah, ce monsieur indien-là a vraiment prédit que c'était une boule.
Oui.
Donc, on va regarder plus à fond ces théories et voir si on peut pas étirer ces théories pour faire d'autres prédictions, comme quelle est la grosseur de cette boule. OK? Le Big Bang dit que la boule avait une grosseur de 0 cm. Mais si lui dit que la boule avait une grosseur de 5 pieds, c'est quelque chose de très important. Puis si un autre avec une théorie, il dit qu'elle avait 10 pieds, puis on fait des mesures, puis il y a 20 pieds, bien là, on avance. C'est comme ça qu'on avance en essayant de rejeter les théories.
Et j'imagine que les enfants, les gens qui ne connaissent pas cette science vous diront, mais qu'est-ce qu'il y avait à côté de la boule? Qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y a à l'extrémité de l'univers, finalement? Qu'est-ce qu'il y a après?
Bon, bien, il y a d'autres théories. On ne parle plus de la théorie de cet Indien-là, mais il y a d'autres théories qui disent qu'il y a des univers parallèles.
Oui.
Et bon, nous, on vit dans un univers et toutes les lois sont les mêmes, comme la loi de la gravité, c'est la même partout. La loi de l'électromagnétisme, c'est la même partout. Mais il y en a qui disent, supposons que l'univers n'est pas tout seul. Il s'est créé des milliers d'univers, mettons 1000. Eh bien, dans un autre univers, la force de gravité serait plus forte, puis un autre univers, la force de gravité serait moins forte. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, on essaie de voir dans ces autres univers-là, c'est un jeu, là, un jeu mathématique. On s'aperçoit que si la gravité est trop faible, il n'y aura pas de Terre, il n'y aura pas d'humain. Si la force de gravité est trop forte, notre cœur ne pourra pas continuer à battre. Comme si on s'en va sur Jupiter, c'est clair qu'on va mourir parce que la pression est trop forte, la gravité est trop forte. Donc, il faut, pour qu'il y ait de la vie, ça prend notre univers. C'est ça qui est bon.
Oui.
Maintenant, ces autres univers parallèles, comment est-ce qu'ils ont été créés? Est-ce qu'on peut dépasser? Est-ce qu'on, par exemple, supposons avec nos télescopes qui deviennent de plus en plus bons à chaque année ou à chaque décennie, on pourrait peut-être arriver au bout d'un univers et rentrer voir des galaxies dans l'autre univers, puis s'apercevoir que ces galaxies-là ont des différences notables avec nos galaxies dans notre univers.
Est-ce qu'on pourra un jour observer les trous noirs, par ailleurs, avec des télescopes?
Oui, j'imagine, mais ça serait bon qu'on mette un télescope sur une station spatiale orbitale, puis qu'on l'envoie proche du centre de notre galaxie. À ce moment-là, on pourrait voir en détail le trou noir qui existe là.
D'accord.
Alors, donc, il y a bien des choses que je prévois pour le futur.
Oui.
Et ça donne deux choses. Ça donne des gens comme moi l'opportunité de découvrir des choses, et ça donne à des théoriciens l'opportunité de créer de plus en plus de théories qu'on espère qu'ils vont pouvoir nous stimuler puis nous permettre d'avancer.
Oui, alors, ce que je retiens, en fait, c'est l'émerveillement devant l'inexplicable. On est vraiment devant des théories concurrentes et les observations essaient de rattraper tout ça, tant bien que mal, et c'est votre travail. Est-ce que vous pouvez indiquer le nom de l'institut pour lequel vous travaillez ici à Victoria, Jacques Vallée?
Oui, je travaille bénévolement pour l'Institut Herzberg d'astronomie et d'astrophysique. Et ça appartient au Conseil national de recherche du Canada, qu'on peut retrouver un peu partout dans chaque province canadienne. Je dois aussi mentionner une petite correction, là, qu'il y a des fois qu'on trouve des objets comme des pulsars qui n'avaient pas été prévus auparavant. Alors donc,
oui.
Des fois, ça arrive qu'on est en avant des théories, puis là, les théories se
jouent. Ah! C'est pas à sens unique.
Non.
Parfois, les observations, justement, sont en pointe par rapport à l'avancement des équations, des recherches. C'est fascinant. Qu'est-ce qu'un pulsar, juste pour clore cet addendum?
Oui, bon, bien, ce que tu sais, c'est qu'il y a des étoiles, un peu comme le Soleil, qui, à un moment donné, quand ils sont vieilles, ils vont s'effondrer sur eux-mêmes et former une espèce de gros mouton, un peu de la grosseur de la Terre. Mais ça va être tellement dense qu'il n'y a plus rien qui peut s'échapper de ça. Mais les pourtours tôt la surface va émettre des ondes radio. Alors donc, quand on a trouvé ces pulsars-là au début, on pensait qu'ils pulsaient des étoiles qui pulsaient, OK? Grossissaient leur radio, leur diamètre montait, descendait. Mais ça s'est avéré une fausse prédiction parce que ce qu'on sait maintenant, ce sont des étoiles qui tournent très vite et il y a un phare radio à la surface. Alors, il frappe la Terre à chaque fois qu'il tourne. Ben, nous, on avait pris ça pour une pulsation, mais c'est une rotation effrénée.
Ah bon, d'accord, OK. Et c'est justement l'observation qui a permis de l'établir.
Oui, oui. Et après, on se l'est fait expliquer par des théories.
Oui, alors il y a une belle relation de dialogue là, qui s'établit. Jacques Vallée, astrophysicien, spécialiste de l'observation par télescope, grand merci d'être venu au débrief pour parler de cet univers, finalement, rien de moins, et du Big Bang avec nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité, Alexis Gagnon.
Merci. Alors, j'ai le plaisir d'être rejoint en cette fin d'émission du 21 décembre par Marie-Hélène Bourret. Bonjour Marie-Hélène.
Allô Alexis.
Alors, c'est le moment de se pencher sur la météo. Est-ce que tu as installé tes pneus d'hiver, Marie-Hélène?
J'ai mes crampons en dessous de mes souliers quand la température le demande. C'est mes pneus d'hiver.
T'as pas mis tes pneus d'hiver sur ton 4x4?
Je serai chez nous quand ça glisse.
OK. C'est vrai que les trottoirs sont glissants parfois ces jours-ci.
Tôt le matin.
Tôt le matin, avec le point de congélation, la nuit.
J'ai toujours cette brume hein, sur le bord de l'océan. Là.
Voilà. J'ai déjà fait ma première chute cette année.
Bravo.
C'est pas nécessairement aux personnes âgées uniquement que ça s'adresse. Il faut vraiment être prudent. Le matin, lorsqu'on sort de chez soi, moi, c'était en mettant le pied hors de ma voiture.
C'est une glace noire.
Voilà. Donc, on va regarder les données météo qu'on a en cette fin de journée du 21 décembre. On a eu une journée grise.
C'est l'hiver, officiellement.
Officiellement, depuis ce matin, 8h28, on est passé d'une saison à l'autre, de l'automne à l'hiver. On a très peu de lumière. D'ailleurs, il est recommandé de prendre beaucoup de vitamine D pour compenser la baisse de luminosité.
Ou de chocolat.
Ça, c'est le la recommandation
personnelle
d'une addict, d'une dépendante au chocolat. Ouais. Ne pas nécessairement...
Une chocolatomane.
À ne pas suivre nécessairement. Alors, une journée grise, morne, maussade. On n'a pas dépassé les 5 degrés aujourd'hui
non.
sur Victoria. Possibilité d'averses de pluie ou de neige fondante.
En fin de soirée, sans doute.
Oui, en fait, Environnement Canada, dans la grille là, qu'il nous présente sur le site météo.gc.ca, nous indique que ça peut se produire dès cet après-midi. Donc, ça pourrait se produire dans la grande région de Victoria, surtout en terrain élevé. Ce sera sans doute sous forme de flocons. Alors, la plus grande vigilance est de mise, comme d'habitude.
Et les gens qui conduisent, rappelez-vous que dans les premières tempêtes de neige, on nous recommande d'être un petit peu plus prudent que d'habitude parce qu'on doit retrouver ses réflexes de conduite sur la neige pour ceux et celles qui connaissent la conduite sur la neige, évidemment. Et aux autres, ben moi, je recommande, prenez les transports en commun.
Alors, effectivement, donc, journée fraîche avec un mélange, un cocktail pluie-neige sur la région en fin d'après-midi et soirée. Et pour demain, 22 décembre, eh bien, c'est un peu le même topo. Ce sera frais avec un mélange pluie-neige aussi. On y reviendra plus en détail demain dans le bulletin. Et ce sera l'occasion aussi de se pencher sur le week-end.
Ouais.
Alors, 23, 24, 25, donc des journées critiques.
Déplacement, beaucoup de monde qui se déplace.
Oui.
On rappelle toujours aux gens que la meilleure façon de se déplacer dans le temps des fêtes, si on a pris un petit coup ou si on a commencé à utiliser des produits qui ne seront légaux qu'à partir du mois de juillet, alors de prendre le taxi, de prendre les transports en commun, de s'assurer qu'on a une façon de retourner chez soi si on a fêté un peu trop.
Conseil judicieux. Et consultez également drivebc.ca,
oui.
Le portail des conditions routières de la province qui est très bien fait avec toutes ces caméras qui sont réparties sur le réseau
oui.
et qui nous donnent l'aspect des routes. Y a-t-il de la congestion routière? Y a-t-il une accumulation de neige?
En temps réel. Hein?
En temps réel, on est capable d'évaluer les conditions. drivebc.ca. Donc voilà pour le petit topo météo. Pour en savoir plus, météo.gc.ca, la page attribuée à Victoria contient tous les détails. Marie-Hélène, tu t'es jointe à moi à brûle pour point, on va dire,
oui.
Pour justement mentionner un contenu radio qui est à l'antenne actuellement, un contenu que tu produis et que tu narres avec ta belle voix qu'on connaît. C'est la poursuite des contes pour tous, c'est ça?
Ben, en fait, Guy Pruvost, vous le savez, fait une émission le samedi matin qu'on écoute à 7h30 et le dimanche en diffusion à 9h et qui s'appelle Contes en pyjama. C'est des contes qui vraiment sont pour les plus jeunes, je dirais première, deuxième, troisième année sans doute. Tout le monde peut l'écouter, évidemment, les grands-parents, les parents avec les enfants. Moi, étant conteuse, je n'ai pas beaucoup l'occasion de faire de contes ici. En français et en anglais, moi, je faisais à Toronto, à Saskatoon, par exemple. Et ici, ben, j'ai décidé de faire une émission de radio. J'ai la possibilité là-dessus. Ça s'appelle « Contes pour grands-enfants ». Pourquoi « Contes pour grands-enfants » ? Parce que ça s'adresse pour les un petit peu plus vieux, qui ont un petit peu plus de vocabulaire en français.
Un peu plus vieux.
Donc, mais qui va très bien pour les adultes aussi, parce que ce sont des légendes qui nous viennent du monde entier. Alors, le contenu est un petit peu différent que ce à quoi on est habitué avec les contes de fées. Il y a quelques princesses, mais elles sont plutôt rares. Bon, c'est très intéressant, justement, un peu du point de vue ethnographique. Et dans chacune émission, j'essaie, supposons que le thème de la journée, c'est la savane, ben j'essaie de mettre un petit peu de musique de la savane, la musique du Groenland, si on parle de contes du Groenland. Bon, à travers tout ça, je fais des dossiers spéciaux. Alors, on a eu des émissions spéciales pour l'Halloween. Ça a duré toute une semaine. C'est des histoires un peu plus épeurantes, avec la musique un peu plus stressante.
Et là, je te vois venir. Il y a une série spéciale pour Noël.
Il y a une série spéciale pour Noël qui a débuté hier soir, qui était Contes de Noël de Charles Dickens, A Christmas Carol. Et on continue alors l'aventure de
Alors,
Christmas
ce soir,
Carol.
Qu'est-ce qu'on a?
Ce soir, à 20h. Alors, jusqu'à Noël, ça se passe à 20h.
Tous les jours?
Tous les jours. C'est une demi-heure chaque fois. Et c'est le conte de Noël qui continue. Donc, c'est à plusieurs épisodes.
Donc, là, le même contenu de Dickens, Christmas Carol.
Christmas Carol, qui se continue, parce que c'est une histoire qui est quand même assez longue.
Épisodique, quoi.
Épisodique, c'est un roman feuilleton. Voilà.
Magnifique. Donc, à ne pas manquer.
À ne pas manquer. Donc, et puis, après Noël, on recommence sur les heures normales, c'est-à-dire le mercredi à 18h30 et le vendredi à 23h en reprise. Alors, ce sera sur les mêmes heures. Vous pouvez en trouver quelques-unes sur notre site web.
Ouais, CILSFM.ca.
C'est bien ça. Et vous allez pouvoir aller sur... c'est nuagique. Là. On est capable d'aller trouver certains de ces comptes-là. Alors, je vous invite à les écouter. On oublie souvent le plaisir d'écouter des histoires.
Oui.
La tradition orale, c'est une tradition qui peut-être se perd un peu. Hein? On est tous dans le cinéma, dans les trucs rapides.
Les jeux vidéo.
C'est des histoires aussi, remarque.
Mais moi, j'ai une belle image du sapin, des cadeaux, peut-être de la tourtière, puis ta voix en toile de fond, à laquelle on peut prêter attention quelques minutes. Pas nécessairement pour suivre tout le conte, mais juste être bercé par les paroles. On connaît déjà l'histoire et ça met comme ça contribue à l'ambiance.
Et puis, c'est une bonne heure, si on dit 20h, 8h en soirée, c'est l'heure où les enfants vont dormir. On est peut-être un petit peu plus...
Avant de se relever pour... c'est le 24.
Oui, mais jusque-là, on est peut-être un peu plus occupé à ce temps-ci de l'année. On a peut-être moins de temps de s'asseoir avec les enfants pour leur lire une histoire. Ben 20h, c'est l'heure parfaite. Soit les enfants avec la radio ou avec l'ordinateur, parce qu'on peut y écouter, justement, évidemment, avec l'ordi, en ligne. Et les enfants, ça leur donne une histoire avant d'aller dormir.
L'heure parfaite pour contes pour grands-enfants. Merci beaucoup, Marie-Hélène. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition du Débrief. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve pour la dernière de cette série rétrospective 2017. Demain, même heure, même fréquence. Excellente soirée à tous.
Au revoir.